P.S. I love my job. Le podcast. Je suis Mélanie Thuillard, coach en leadership, et je vous invite à vous accorder 15 minutes pour apprendre, réapprendre ou continuer à aimer votre job. Et si ça vous tente pas, ça vous prendra le même temps pour en apprendre un peu plus sur vous ou sur vos collègues. Prêt ? Alors ça commence maintenant ! Épisode 4, le sens des responsabilités. Ça vous agace pas, vous ? Je vous parle de ce collègue qui vous transfère cet email avec pour seule mention « pour toi », alors que ça lui aurait pris moins de temps de répondre directement au client. Ça vous fait pas lever un peu les yeux au ciel, vous, quand un représentant du personnel administratif de votre commune vous dit « c'est pas moi qui fais les règles ici, hein, c'est comme ça ». Ça vous rend pas furieux, vous, quand votre collaborateur vous dit « ben ça je peux pas savoir, d'ailleurs c'est pas dans ma job description ». Il existe bien une maladie que j'ai pu largement observer en entreprise, c'est celle de se refiler les responsabilités comme une patate chaude. Je vous lance pas la pierre. Aucun de nous n'est en reste. Avouez, vous avez bien une fois ou l'autre répondu à votre interlocuteur que c'était pas votre faute, mais celle de l'autre département, votre boss, votre collègue, tout ça. Non ? Jamais ? Alors vous êtes un cas très rare. Parce que avoir un niveau de responsabilité si élevé, au point d'être capable de répondre avec intelligence aux demandes, sans laisser parler l'ego, sans une petite pointe de honte devant le fait de devoir demander de l'aide. Toujours faire ce qu'il y a à faire pour que la situation se débloque, au risque de perdre un temps précieux, ou pire encore, de perdre la face. Eh bien tout ça, c'est très coûteux en énergie. Pourtant, ceux qu'ils font sont très précieux pour les entreprises. Et ils laisseront une trace, un bon souvenir à leurs collègues, bien après le jour de leur départ. Mais voilà, cette maladie qu'est le manque de prise de responsabilité, de ownership, oui comme d'habitude l'anglais a des termes plus spécifiques donc je les utilise, cette maladie qui est d'ailleurs plutôt un symptôme, reste encore globalement considérée comme une qualité. Et le fait d'être perçu comme pleinement responsable est souvent, paradoxalement, vu au premier abord comme une grosse faiblesse. Et pour plein de raisons d'ailleurs. On considérera celui qui se débrouille pour aller au bout de ses responsabilités comme au mieux lèche-botte, au pire, un paillasson incapable de dire non. Ou alors, on le verra comme fragile, prêt à s'excuser, prêt à dire qu'il ne sait pas mais qu'il va se renseigner, prêt à dire qu'il s'est trompé. Comment mener une carrière avec aussi peu d'aplomb, n'est-ce pas ? Et puis, pas drôle non plus, ceux qui assument et ne rejettent pas toujours la responsabilité sur les autres. C'est plus ennuyeux d'avoir une discussion commérage avec eux autour d'un café. Pourtant, prendre pleinement ses responsabilités est un excellent calcul pour une carrière prospère et une vie apaisée, mais ça s'avère vrai uniquement si on réfléchit à long terme. Parce que si on ne réfléchit qu'à court terme, c'est très difficile de prendre ses responsabilités. Avoir cette discussion nécessaire mais compliquée avec son boss, son collaborateur ou son collègue, ça se prépare, c'est très inconfortable, donc oui, c'est difficile. Devoir admettre que ce projet ne va nulle part et cesser de faire perdre du temps à tout le monde pour enfin pivoter, s'il est encore temps, ou abandonner si on a trop attendu, c'est inconfortable, c'est malaisant, donc oui, c'est difficile. Devoir annoncer des changements économiques qui vont directement ou indirectement impacter le job et par extension la vie de ses collaborateurs, c'est effrayant, c'est compliqué, donc oui, c'est difficile. Prendre ses responsabilités, ça n'a donc rien de facile. La définition de facile, c'est d'obtenir un maximum de satisfaction immédiate avec un minimum d'efforts fournis. Avoir le sens des responsabilités, c'est tout l'inverse de ça. Ça demande de maîtriser ses émotions et de ne pas prendre de décisions en réaction de celles-ci. Ça demande d'apprivoiser son ego, qui nous demande toujours d'utiliser le chemin le plus facile. Ça demande d'avoir une vision à long terme, de savoir ce qu'on cherche à obtenir pour notre carrière, pour notre team, pour notre vie, de manière globale, et pas uniquement rechercher la meilleure solution juste pour soi et juste pour aujourd'hui. Ça demande aussi d'être décisif et de prendre le risque de se tromper. En résumé, ça demande beaucoup, beaucoup de courage. Et le courage, surtout le courage managérial, c'est une qualité qui m'a semblé la plus rare en entreprise. Le courage managérial, c'est cette capacité à ne pas laisser pourrir les situations, mais d'agir en amont pour éviter les déraillements. Durant toute ma carrière, je n'ai que trop rarement été témoin de tels exemples de courage. Dans le monde professionnel, quelqu'un capable de régler les problèmes, encore mieux de graves problèmes, est considéré comme une star. Même si cette star a elle-même largement contribué, ou tout de moins n'a jamais rien fait pour éviter que le problème, qu'il brille maintenant à résoudre, fasse surface. Par contre, celui qui a la capacité à éviter les problèmes en les tuant dans l'œuf n'est que rarement remarqué, donc jamais reconnu, pour cette bien plus grande qualité. Parce que c'est pas tout d'espérer de ces managers d'avoir du courage, de prendre leurs responsabilités. Encore faut-il que les entreprises soient aussi capables de définir ce que ça veut vraiment dire. Et d'être capable de reconnaître cette qualité chez ses leaders et ses employés de manière générale. Mais heureusement, on avance. On avance de plus en plus dans ce domaine-là. Ces dernières années, plein d'efforts qui vont dans le bon sens sont revenus en vogue. D'abord, on parle de plus en plus de bien former ses managers à la délégation, ce qui rend leurs collaborateurs plus autonomes. Et c'est ce genre de bonne pratique qui va ultimement augmenter le niveau de ownership globalement et à tout niveau. Ensuite, comme j'en ai parlé dans l'épisode numéro 2 de ce podcast, les entreprises prennent de plus en plus au sérieux le développement de leur vision et des missions qui y sont associées. Et ça permet de mieux réfléchir aux conséquences de nos actions individuelles et collectives à long terme. Une autre chose qui, bien sûr, me réjouit, c'est vraiment ce qui me réjouit le plus, c'est qu'on commence à considérer le développement du leadership comme une compétence qui ne concerne plus que les hautes sphères de la hiérarchie, mais bien tous les employés, à tous les niveaux. Et last but not least, on commence, encore timidement, c'est vrai, mais c'est un début, à parler d'émotions en entreprise. Alors pour le moment, ça se cantonne encore à parler surtout de résilience ou de gestion du stress, mais on avance doucement. Je suis convaincue que nous allons bientôt entrer dans une ère où il sera mainstream de prendre un cours d'intelligence émotionnelle dans le cadre de son job pour non seulement apprendre à prendre conscience de son ego pour qu'il cesse de nous diriger, mais aussi pour apprendre à reconnaître nos émotions et celles des autres pour cesser de décider sous leur influence. Voilà, je vous ai donné la recette pour augmenter son niveau d'ownership à appliquer globalement, mais déjà de manière individuelle. Mais justement, au niveau individuel, quel est vraiment l'avantage? C'est vrai ça, si les autres sont pas prêts à se responsabiliser et qu'en plus, individuellement, on n'en retire aucune satisfaction immédiate et que cerise sur le gâteau, c'est une ligne difficile à tenir, pourquoi s'infliger ça? Alors, je comprends les réticences. En développant ma pratique de coaching, j'ai placé la responsabilité individuelle comme un des trois piliers indispensables au développement d'un leadership conscient, sensible et durable. Alors j'ai tout de suite compris que ça serait plus compliqué à vendre qu'un concept qui dirait qu'on peut devenir un leader avec facilité, fun, et simplement en étant qui on est sans chercher à changer un minimum, comme certains autres coachs pourraient le promettre. Mais en appliquant ce leadership exigeant à moi-même, et surtout en aidant mes clients à l'appliquer, une fois les premières difficultés surmontées, j'ai pu observer des bénéfices énormes sur le long terme. Voici quelques bénéfices que moi j'ai pu observer dans ma pratique. Je vois une fierté retrouvée, une meilleure confiance en soi à mesure qu'on renforce et qu'on affirme notre définition de l'intégrité. Aussi des relations bien moins conflictuelles et plus fluides quand on laisse pas les rancœurs et les malentendus s'accumuler, en ayant des discussions, ma foi, un peu difficiles mais salvatrices en temps et en heure. J'observe aussi un meilleur niveau de calme, un calme retrouvé. Ça arrive quand on n'a plus à se demander « quand est-ce que ce que j'ai remis à demain, cette responsabilité que j'aurais dû prendre, ou ce que j'ai pas voulu assumer, est-ce que ça va me péter à la tête ou pas ?» Quand on a plus ce genre de questions, eh bien ça nous aide à mieux dormir, croyez-moi. Je remarque aussi un sentiment de liberté accru. En voyant qu'on a la capacité à prendre des décisions, même impopulaires, même difficiles sur le moment, en surmontant sa peur de l'échec. Et que malgré ces décisions, eh bien, le monde autour de nous ne s'effondre pas et que même il devient plus facile à y naviguer, à mesure qu'on muscle notre capacité à nous responsabiliser. Tout ça sans parler que les efforts finiront inévitablement par être reconnus par ceux qui verront, avec le temps, qu'on est digne de confiance, un pilier fort qui n'a pas peur ni d'admettre ses erreurs, ni d'avancer sans tortiller devant les challenges avec aisance et aplomb. Tout ça et bien plus encore. Parce qu'au final, c'est pas si difficile. Être responsable, se responsabiliser, ça demande juste une bonne conscience de soi, un peu de pratique et une certaine dose de patience pour y arriver et pour obtenir les résultats. Alors comme à chaque épisode, je vais vous quitter sur une réflexion. Cette réflexion, c'est, demandez-vous, si je n'avais pas besoin d'obtenir un soulagement ou une satisfaction immédiate, quel choix ferais-je qui me bénéficiera au long terme la prochaine fois que j'aurai la chance d'être face à mes responsabilités? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ça vous a fait réagir, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentant, aimant ou en partageant cet épisode. Merci de l'avoir suivi, je vous retrouve tout bientôt pour un nouveau sujet qui, j'espère, vous aidera encore une fois à apprendre, réapprendre ou continuer à aimer votre job. À très bientôt !